La semaine dernière, je faisais référence à un article qui est publié sous la plume de François Normand dans le journal Les Affaires, qui nous parlait du commerce international sous le titre « Cet entrepreneur qui ne peut sortir de Chine ». En gros, ce que ça dit, c'est que ça invoque un volet qui s'appelle le « exit ban », c'est-à-dire une disposition dans la loi chinoise qui révoque le passeport même d'un citoyen étranger. Exemple, dans ce cas-ci, qui est cité par François Normand, d'un entrepreneur canadien qui vit en Chine depuis une quinzaine d'années et pour des raisons, à ce que je comprends, là, d'un litige qui existe avec son entreprise là-bas, ne peut sortir du pays et même limite ses déplacements à travers ce même pays. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Bon, vous êtes pas sans savoir qu'il y a quelques litiges entre le Canada et la Chine. Et pour parler justement de cette réalité, on va aller rejoindre un entrepreneur qui connaît bien cet endroit, qui y habite maintenant depuis plusieurs années. Pour des fins de simplicité pour lui, on va simplement l'appeler par son prénom. Jean-Pierre est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Beaumont.
Bon, Jean-Pierre, c'est une réalité. On le sait, là, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en Chine. Là, je vous cite le cas de l'exit ban. Je veux pas qu'on rentre dans ce cas particulier, là, vraiment, là, qui est cité par François Normand, parce que ce sont des entretiens qu'il a eu avec cet entrepreneur-là, dont on n'a pas le nom. Est-ce que c'est simple faire des affaires en Chine?
Ben, je vous dirais que ça a déjà été beaucoup plus simple. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Ça dépend dans quel secteur aussi. Hein. C'est sûr que si on parle du secteur agroalimentaire, là, on s'embarque dans quelque chose qui est excessivement compliqué parce que l'agroalimentaire, tout ce qui concerne la nourriture, par exemple, quelqu'un qui voudrait fabriquer, je sais pas moi, du jambon comme Maple Leaf en Chine, devrait avoir ce qu'on appelle le QS de Chine, donc qui est un peu la réplique de Santé Canada. En général, on donne pas ça aux étrangers, mais plus à des entreprises locales. Par contre, je vous dirais que moi, où je demeure, on appelle ça la ville de l'acier. Hein. Soprema, qui est très connue, hein, qui même me dit qu'elle a ouvert une deuxième usine en Chine. On a BMW qui est là, Mercedes, Bombardier, le groupe Soucy qui sous-traite avec Bombardier. Dans tout ce qui est haute technologie, c'est pas compliqué, là. Ça dépend dans quel secteur d'activité on se trouve. Ce qui est difficile à vous expliquer, c'est qu'en Chine, ce qui était bon hier, ça ne veut pas dire que c'est bon demain.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, vous savez, chez nous, quand on veut changer une loi ou quand on veut changer une législation, n'importe quoi, ça doit être voté soit à la Chambre des communes à Ottawa soit au Parlement à Québec. Par contre, en Chine, on change les lois bonhommement comme on veut. Alors, si quelqu'un, par exemple, vous dit « Est-ce que je peux encore renouveler mon visa de business à Hong Kong pour un an? » Quelqu'un lui répond « Oui, je l'ai fait il y a 6 mois puis ça a bien fonctionné. » Ben, ça risque de même pas être vrai parce que depuis 3 jours, ben, ils ont dit non, les visas à partir de Hong Kong, maintenant, c'est seulement 3 mois. Alors, c'est tout aux gens de s'informer à la dernière minute, pas un an d'avance, là, parce que ce qui était bon hier, ça veut pas dire que c'est bon demain.
Racontez-moi, vous m'avez raconté ça hors d'onde tout à l'heure, puis c'est fascinant. Puis à quel point ça peut être, c'est sévère, certaines réglementations sont sévères en Chine. Sur des exemples, sur les dates d'expiration des produits.
Oui, c'est pas un gros problème, je vous dirais, mais c'est quelque chose d'assez particulier à la Chine. Il faut vraiment éviter d'utiliser des produits qui sont passés date ou qui sont meilleurs avant, comme je vous citais le cas tout à l'heure d'un boulanger français qui a utilisé de la farine qui était... On va donner un exemple de date, parce que je me souviens pas de la date d'expiration, mais c'était marqué meilleur avant le 1er janvier 2018, par exemple.
Oui.
Et le 12 janvier, les inspecteurs se sont aperçus que la farine était meilleure avant le 1er janvier. Et pour le Chinois, meilleur avant, ça veut dire date d'expiration. Donc, le chef d'entreprise est parti assez rapidement, merci, heureusement. Mm-hmm. Mais son gérant, lui, a fait le temps de prison à sa place. Je ne sais pas s'il est encore en prison actuellement aujourd'hui, mais on l'a emprisonné pour ça, pour avoir utilisé des produits dans sa boulangerie pour les Chinois, passé date. Si vous allez dans une entreprise, un supermarché, par exemple, si ces gens-là vendent des produits sur les tablettes qui sont passé date, ben même les employés qui l'ont vendu à la caisse sont passibles d'emprisonnement.
Mais c'est pas exagéré
c'est
non? pour un pays, entre autres, que produits, on a vu, là, certains produits ont été retirés des tablettes parce que ça contenait toutes sortes de contaminants où les normes, des fois, on dirait qu'elles sont assez élastiques. Il me semble que c'est exagéré un peu.
Oui, oui. Par contre, je vous dirais que les Chinois ont tout axé sur l'environnement depuis un an.
Okay.
Quand on ouvre une entreprise en Chine, là, les inspecteurs vont mettre le focus plus sur l'environnement que sur la qualité du produit qui va être fait. Il y a eu une entreprise qui a pris en feu il y a à peu près 3 ans, une entreprise de nitrate, et il y a eu plusieurs morts, plusieurs brûlés, il n'y avait pas de sortie de secours derrière l'usine. Donc aujourd'hui, ben, les pompiers vont faire des vérifications s'il y a des sorties de secours, si on a installé des sprinklers, comme on dit en anglais, je ne me souviens pas du mot français.
Des gicleurs, oui.
C'est plus difficile de rentrer dans les normes environnementales maintenant que dans les normes ASEP, comme on dit. Il y a beaucoup d'entreprises, des milliers d'entreprises de propriété chinoise, là, qui ont été carrément fermées par le gouvernement parce qu'ils ne rencontraient pas les normes de salubrité ou les normes environnementales ou les normes de feu. Et puis, c'était tellement vieux, ces bâtisses-là, que c'était presque pas rénovable. Donc, on a carrément fermé ces usines-là.
On disait que technologiquement aussi, puis je l'ai entendu beaucoup ici, des entreprises qui voulaient tenter leur coup vers l'aventure asiatique parce que c'est un marché qui est extrêmement important. On les décourageait de se rendre vers l'Asie pour des raisons de propriété intellectuelle. À votre connaissance, est-ce que c'est exagéré ou c'est une mise en garde qui est tout à fait à point?
Ouais, c'est un sujet qui est assez chaud en Chine, les propriétés intellectuelles, parce que naturellement, on peut avoir une propriété intellectuelle en Chine, naturellement, on peut faire breveter un produit en Chine. Quand ce sont de grosses compagnies, de grosses multinationales qui font breveter un produit et les gens les copient, en général, il y a des sanctions très sévères.
Okay.
Par contre, en Chine, quand c'est une petite entreprise, là, je vous parle de petite entreprise qui va copier une autre petite entreprise, en général, il ne se passe rien.
Okay.
Et, je vous donne un exemple une fois. Là, la compagnie Gillette, par exemple, qui fait des rasoirs. La compagnie Gillette a beaucoup d'usines en Chine et les Chinois achètent que du Gillette. Mais il n'y a pas une entreprise chinoise qui va oser copier du Gillette. Parce que l'entreprise est grosse, elle est bien, son brevet est bien fait. Donc, personne ne veut copier des entreprises comme ça.
Notre invité ce matin, Jean-Pierre, est un homme d'affaires qui fait des affaires en Chine depuis maintenant plusieurs années, dans cette réalité-là où on entend beaucoup parler avec cette guerre qui existe un peu aussi avec le Canada présentement. Parlez-moi de la surveillance là-bas. Pour les gens qui y habitent, la présence des caméras de surveillance, on parlait de technologie également, où on pouvait à la limite même donner des notes à des gens s'ils sont de bons citoyens. Qu'en est-il en réalité, tout ça?
Ah, vous abordez un très bon sujet. On appelle ça les points sociaux.
Oui.
Oui, effectivement, là, vous l'avez mentionné, puis ça, c'est une réalité de la vie, mais je pense que ça va s'étendre en dehors de la Chine bientôt. Ça a commencé avec la ville de Shenzhen, en Chine, la cité de l'électronique, où on fait tous les téléphones, même les iPhones. Le maire de Shenzhen a dit, il n'y aura pas un seul mètre carré dans ma ville qui ne sera pas couvert d'une caméra. Alors maintenant, les grandes villes en Chine ont tous suivi. Mais non seulement ils sont dotés de caméras, mais ils sont dotés d'appareils photo qui prennent votre iris. Donc, partout où vous marchez dans les grandes villes de Chine, que vous soyez n'importe où, on vous voit.
Okay.
On vous voit. Donc, si vous arrivez à la barrière de sécurité de l'endroit où vous demeurez, parce qu'en Chine, en général, où on demeure, il y a toujours des agents de sécurité avec une barrière, puis c'est seulement les résidents qui ont le droit d'entrer. Aussitôt vous passez la barrière, vous avez un flash dans les yeux, puis on sait qu'on vient de lire votre iris, puis qu'on a encadré votre tête avec un numéro de série puis votre numéro de passeport. Donc, si vous traversez sur un feu rouge et que vous êtes un citoyen chinois, avec une carte d'identité chinoise, ben on vous enlève des points. Et passé un certain nombre de points, dont je me souviens plus le nombre, mais c'est pas beaucoup, c'est un peu comme le permis de conduire au Québec, ben vous ne pouvez plus acheter des billets de train et ni des billets d'avion.
C'est incroyable, c'est digne d'un épisode de Black Mirror. Je ne sais pas si vous avez vu cette série-là avec Bryce Dallas Howard, à un certain moment où justement c'est l'interaction sociale, c'est ce qui vous donne des points et c'est ce qui vous permet de faire des choses. Et si vous descendez en bas, on vous interdit de faire certains éléments. C'est une fiction. On est là chez vous présentement.
J'ai pas vu la série, mais j'ai vu beaucoup de films de science-fiction qui parlaient de choses comme ça. Mais là, tu te dis aujourd'hui, celui qui a eu l'idée d'écrire ce film-là était probablement visionnaire, là, parce que tout ce qu'on voit dans les films de science-fiction qu'on a vu, même il y a 20 ans, il y a 10 ans, des choses qui arrivent aujourd'hui. Là.
Mais racontez-moi, localement, comment les gens voient ça? Est-ce que je comprends qu'ils sont assez limités aussi dans les moyens de manifester leur désaccord avec les décisions prises, mais c'est être épié comme ça, de façon continue, de se faire carrément catégorisé par pointage. Il y a quelque chose comme occidentaux de profondément malsain. Comment localement on voit ça? C'est une normalité où les gens sont pas en accord, mais ils vivent avec parce qu'ils n'ont pas le choix?
Ben, je vous dirais que la majorité des citoyens qui forment l'ensemble du pays, là, on va dire monsieur tout le monde, s'en rend même pas compte. De toute façon, on va pas faire des émissions de radio comme on fait en ce moment où un animateur de télévision va pas commencer à donner son opinion si c'est correct ou pas correct. Là, ça fonctionne pas comme ça dans ce pays-là. Tout est scanné, comme on peut dire, par ça vient d'en haut. Hein.
Mm-hmm.
Alors, la plupart des gens ne sont pas vraiment au courant dans les détails de toutes ces choses-là. Souvent, ils s'en rendent compte quand il est trop tard. Une fois qu'il a perdu assez de points sociaux, qu'il vient pour s'acheter un billet de train, on se fait dire non, t'as plus le droit d'acheter un billet de train, t'as trop perdu de points. On voit des gens qui font « C'est quoi ça, ces points-là? » T'es même pas au courant. Mais je vous dirais que les gens d'affaires, puis il y en a énormément, eux sont au courant de ça, donc ils sont excessivement prudents. On sait que la tolérance pour l'alcool au volant en Chine, ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est comme en Floride aux États-Unis, c'est zéro. Sauf que c'est de la prison. C'est pas seulement un ticket de police, là. C'est de la prison.
Mais est-ce que fois, ça vous donne le goût, Jean-Pierre, de dire, écoutez, moi, là, c'est beau, là, c'est un marché qui est immense, qui est lucratif, ouais. Mais en même temps, il y a des limites à laquelle, personnellement, je peux pas dépasser. Est-ce que vous posez cette question-là, des fois?
Absolument. Absolument. Régulièrement. Moi, j'ai commencé à faire avec la Chine il y a plus de 21 ans. Mais moi, comme exportateur, j'aurais jamais de difficulté à continuer d'exporter. Et je pourrais le faire de Montréal. Je serais pas obligé d'être en Chine pour le faire. Mais c'est pas une question de contrôle de qualité, de proximité du manufacturier. Ben, pour moi, c'est plus pratique d'être en Chine. Par contre, je dois faire face à tout ce qu'on vient de parler. Et effectivement, oui, il y a toujours des limites quelque part. Ben, ça va s'arrêter où? Mais là, quand tu t'aperçois que ça va jamais s'arrêter, que ça va toujours aller en s'accentuant, moi, je trouve ça dommage. Je m'inquiète beaucoup pour la nouvelle génération.
Ouais.
Cette nouvelle génération-là n'aura plus aucune espèce de vie privée. Et ça a tendance à vouloir se déverser à l'extérieur. Là. C'est pas seulement dans ce pays-là que ça va arriver, là. J'ai l'impression que ça va devenir comme ça un peu partout parce que on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. On n'a pas inventé l'intelligence artificielle là, pour écouter la télévision. Là.
Jean-Pierre, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous raconter votre réalité là-bas. Ce fut un plaisir de discuter avec vous.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Merci, au revoir. Jean-Pierre, donc, c'est un homme d'affaires québécois qui est établi en Chine depuis une vingtaine d'années maintenant, qui nous racontait cette réalité. Vous avez manqué le début de notre discussion. C'est disponible sur la page du 985FM.ca dans l'onglet de Weekend Extra. Merci beaucoup à vous d'avoir été là cette fin de semaine. Merci beaucoup à François Arnois à la recherche, à Frédéric Perron à la réalisation. On vous donne rendez-vous samedi prochain à compter de 7h dans un instant Rock en liberté au réseau Cogeco. Bye bye.